Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 22 novembre 2024, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, le parti au pouvoir a remporté plus des trois quarts des sièges de députés aux législatives de dimanche. Au Burkina Faso, le gouvernement militaire a décidé de geler les avoirs de 113 personnes et de deux groupes djihadistes. Les États-Unis rejettent catégoriquement la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens. Et dans notre partie magazine, moins de 24 heures après le limogeage du premier ministre malien Cheguelko Kala Maïga et de son gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a pris sa place.
Et aujourd'hui, c'est le rassemblement qu'on souhaite du général Abdoulaye Maïga.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le parti au pouvoir au Sénégal a remporté plus des trois quarts des sièges de députés aux législatives de dimanche, indiquent les résultats nationaux provisoires publiés jeudi qui confirment son raz-de-marée électoral. Le point avec Alexandrine Hollognon.
Le parti PASTEF a gagné 130 des 165 sièges en jeu et obtient l'écrasante majorité qu'il réclamait pour appliquer son agenda de rupture et de justice sociale, selon les chiffres communiqués par la Commission nationale de recensement des votes. Ces chiffres seront définitifs une fois proclamés par le Conseil constitutionnel, qui pourra le faire sous 5 jours. La majorité absolue pour le parti PASTEF devrait favoriser la mise en œuvre par l'exécutif du projet qu'il a porté au pouvoir il y a 8 mois. L'exécutif entend mener une transformation systémique, cohérente et pragmatique du Sénégal, a dit le président Bassirou Diomaye Faye en Conseil des ministres. Il a affirmé la nécessité de traiter les urgences économiques et sociales, comme la cherté de la vie et le chômage, tout en relançant l'économie, notamment dans les secteurs moteurs de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, des mines et des hydrocarbures. Les Sénégalais attendent maintenant que leurs gouvernants allient la parole aux actes.
Près d'un million d'Ivoiriens ont demandé à s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025, selon un bilan provisoire annoncé jeudi par la Commission électorale indépendante, la CEI. Après la clôture des bureaux d'enrôlement, la commission a procédé du 19 octobre au 17 novembre à la révision de la liste électorale où elle attendait l'inscription de 4,5 millions de primo-votants. La liste provisoire devrait être affichée dans tous les lieux de vote à partir du mois de mars, selon un responsable de la CEI. Le règlement des contentieux pourra ainsi députer, conduisant à la publication de la liste définitive en juin. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé jeudi à Niamey un protocole d'accord sur la fin des frais d'itinérance des communications téléphoniques, appelé roaming. L'adoption de ce protocole offrira à nos concitoyens la possibilité de communiquer sans le poids du surcoût d'itinérance qui freine la mobilité et les liens entre les peuples, a déclaré au cours de la cérémonie Wenla Sida, Patrice Compaoré, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Burkina Faso. Le gouvernement militaire du Burkina Faso a décidé de geler pour 6 mois renouvelables les avoirs de 113 personnes et de deux groupes djihadistes accusés de financement du terrorisme. Davantage avec Nani Talani.
Parmi la centaine de personnes visées figure l'ancien chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Damiba en exil au Togo après avoir été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel leader de la transition. La mesure concerne aussi d'ex-ministres comme le général Djibril Bassolé et Alpha Barry, fondateurs d'un groupe de presse, tous deux en exil, l'ancien numéro 2 des services de renseignement, le commandant Sékou Ouédraogo, et l'ancien commandant des forces spéciales, Feu Ahmed Kinda, tué pendant une tentative d'évasion. Ces personnes sont accusées de financement du terrorisme, d'association de malfaiteurs terroristes et d'autres infractions liées à des actes de déstabilisation du pays. L'arrêté interdit également à ces individus de voyager pendant toute la période de gel de leurs ressources. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que le groupe État islamique au Grand Sahara, sont également visés par la mesure.
Le Soudan du Sud a rejeté jeudi les accusations d'une organisation de surveillance basée aux États-Unis, affirmant que la famille du président Salva Kiir aurait bâti un vaste empire commercial dans le pays, l'un des plus pauvres du monde. De Saint-Tri, spécialisé dans la traque de l'argent de la corruption, a affirmé avoir cartographié 126 entreprises de la famille Kiir opérant dans des secteurs centraux pour l'économie sud-soudanaise. Toujours au Soudan du Sud, des tirs nourris ont été échangés à Djouba, la capitale, à la résidence de l'ex-chef des services de renseignement à Col Cour. Récemment limogé, l'ONU, évoquant une arrestation, une source militaire impliquée dans l'opération, a déclaré qu'à Col Cour, qui était en détention à domicile depuis octobre selon des médias locaux, avait été arrêté après d'intenses combats.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis rejettent catégoriquement la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens, a réagi jeudi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les précisions de John Lindon.
Nous restons profondément préoccupés par l'empressement du procureur à réclamer des mandats d'arrêt et par les erreurs troublantes dans le processus qui a mené à cette décision, a-t-il ajouté dans une réaction transmise à la presse, en répétant que selon Washington, la CPI n'était pas compétente juridiquement dans cette affaire. Il assure que Washington discute des prochaines étapes avec ses partenaires, y compris Israël. La CPI a émis jeudi des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Donald Trump n'avait pas encore réagi, mais son futur conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, a promis une réponse forte à cette position antisémite de la CPI quand le président élu va prêter serment en janvier. Au Congrès, les républicains ont unanimement réclamé des sanctions contre la CPI.
Entre-temps, des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait des dizaines de morts jeudi dans la journée. Des raids israéliens sur la vallée de la Beka, un fief du Hezbollah dans l'est du pays, ont tué 40 personnes, a annoncé le ministère libanais de la Santé au moment où l'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein est en Israël après Beyrouth pour tenter d'obtenir une trêve entre les belligérants. Et dans la soirée, le ministère annonçait que 12 personnes avaient été tuées et 50 autres blessées dans des frappes sur le sud du pays. Le président élu américain Donald Trump a annoncé hier jeudi avoir choisi Pam Bondi, une membre de son équipe d'avocats, lors de son procès en destitution en 2020 pour prendre la tête du ministère de la Justice après le retrait de l'ex-député controversé Matt Gaetz. Le point avec Eric Manelakidza.
J'ai l'honneur d'annoncer que l'ex-procureur général de Floride, Pam Bondi, sera notre prochaine ministre de la Justice, a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Après avoir quitté ses fonctions de procureur général de Floride en 2019, Pam Bondi a fait partie de l'équipe d'avocats de Donald Trump lors de son procès en destitution au Sénat. Pam Bondi a ensuite rejoint l'équipe d'avocats qui a mené sa contestation judiciaire de l'élection de Joe Biden. Cette nouvelle nomination pour le ministère de la Justice a été annoncée peu après le retrait de Matt Gaetz. Malgré une forte dynamique, il est clair que la confirmation de ma nomination était injustement en train de devenir une diversion, a expliqué Matt Gaetz sur X au lendemain d'une rencontre avec des sénateurs en vue des auditions du Sénat pour confirmer ou refuser sa nomination. Il n'y a pas de temps à perdre dans une bagarre inutilement prolongée à Washington. C'est pourquoi je vais me retirer du processus de nomination comme ministre de la Justice, a-t-il ajouté.
Le ministère des Affaires étrangères d'Haïti a annoncé jeudi avoir convoqué l'ambassadeur de France dans ce pays de la Caraïbe et protesté contre les propos jugés inacceptables du président Emmanuel Macron, accusant les responsables haïtiens d'être complètement cons. Le chef de la diplomatie haïtienne Jean-Victor Harvel, Jean-Baptiste, a fait part jeudi après-midi au diplomate français Antoine Michon de l'indignation du pouvoir de transition face à ce qu'il considère comme un geste inamical et inapproprié qui mérite d'être rectifié selon le communiqué du ministère. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les forêts tropicales du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie, subissent une dégradation annuelle de 1 à 5% à cause de l'exploitation forestière et minière illégale, d'après un rapport du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. Le rapport recommande une coopération renforcée entre les pays concernés que sont le Gabon, le Cameroun, la RCA, la Guinée équatoriale, la RDC et le Congo-Brazzaville. Depuis 2001, 30% de la couverture forestière régionale a disparu, causant 17 milliards de dollars par an de pertes. Le Parlement nigérian a approuvé l'emprunt de 2209 milliards de dollars via des euro-obligations ou d'autres sources pour combler le déficit du budget. Le ministre des Finances, Wale Edun, assure que ces fonds soutiendront les réformes en cours, notamment avec la chute du Naira, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur, exacerbant les contraintes budgétaires.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Rosine.
Le PSG inaugure son campus pour passer une dimension supplémentaire.
Le club parisien a inauguré jeudi à Poissy-Yvelines son campus qui comprend 16 terrains d'entraînement, des bâtiments administratifs ainsi que le centre de formation et une cité éducative. L'équipe première masculine s'y entraîne depuis juin 2023, mais le club a organisé jeudi une tournée spéciale avec, après une matinée consacrée à l'accueil de la presse, une soirée de gala. Y ont participé des dirigeants du sport comme le président de l'UEFA, Alexander Seferin, le joueur de tennis Novak Djokovic ou encore l'humoriste Jamel Debbouze.
MLS, l'Argentin Gerardo Tata Martino, entraîneur de l'Inter Miami de Lionel Messi, quitte l'équipe pour raisons personnelles.
L'ancien coach du FC Barcelone, âgé de 61 ans, a mené l'Inter Miami à la première place de MLS en saison régulière avant de subir une élimination choc au premier tour des playoffs face à Atlanta le 9 novembre. Martino avait rejoint Miami en juin 2023, juste avant l'arrivée de la superstar Lionel Messi en provenance du Paris Saint-Germain. Une conférence de presse est prévue ce vendredi avec Martino, l'un des propriétaires du club Jorge Mas et le directeur du football Raoul Sanlehi.
Coupe Davis, l'Australie en demi-finale, l'Italie de Sinner entre en lice.
L'armada de stars américaines n'aura pas suffi. L'Australie a battu 2-1 les États-Unis jeudi en quart de finale de la Coupe Davis et tentera samedi de s'offrir une troisième finale de rang dans la compétition. Le double australien composé de Matthew Ebden et Jordan Thompson a dominé 6-4, 6-4 la paire américaine Tommy Paul, Ben Shelton pour offrir le point décisif et une place dans le dernier carré à la sélection verte et or. 28 fois lauréate en Coupe Davis, seuls les États-Unis ont fait mieux avec 32 sacres. Les joueurs de Leighton Hewitt défieront en demi l'Italie du numéro 1 mondial Jannik Sinner, tenante du titre, vainqueur en simple et en double contre l'Argentine jeudi soir dans le dernier quart de finale du tournoi. Dans l'autre demi-finale, l'Allemagne sera opposée ce vendredi à partir de 16h GMT aux Pays-Bas, bourreau de l'Espagne de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz.
NBA, la légende chinoise Yao Ming incite à éviter la politique sur le terrain.
La légende chinoise de la NBA, Yao Ming, incite à mieux discerner ce qui est propre au jeu et de tenter au mieux d'éviter la politique, a-t-il déclaré jeudi à Pékin lors d'une table ronde sur le sport dans le contexte des relations sino-américaines. Bien que la Chine compte un grand nombre de fans de basketball, elle n'a pas accueilli de match de NBA depuis 5 ans suite à une controverse politique. Le directeur général de l'équipe NBA des Houston Rockets, Daryl Morey, avait alors exprimé son soutien à Hong Kong sur Twitter, alors que la région administrative spéciale chinoise connaissait plusieurs mois de manifestations pro-démocratie.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Moins de 24 heures après le limogeage du premier ministre malien Cheguelko Kala Maïga et de son gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a pris sa place. Il est en charge de former dans les jours à venir un gouvernement qui va s'attaquer aux attentes que les Maliens expriment au micro de notre correspondant Mohamed Danioko.
Le limogeage de Cheguel était prévisible. Depuis 2 ans, chacun va avec son idée que du jour au lendemain, il va être limogé. Mais bon, cet limogeage est arrivé suite à mon avis, à un malentendu entre les plus hautes autorités et la primature. Cheguelko Kala Maïga, qui ne se sent pas vraiment à hauteur de ses fonctions.
Moi, je ne pense pas si son départ peut changer ou quelque chose, mais néanmoins, en tout cas, il a fait des sommets, il faut reconnaître il a fait quelque chose. Même s'il a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, il faut reconnaître aussi qu'il a fait quelque chose de sérieux. Donc vraiment, nous demandons à la transition de former vite un gouvernement, parce que le pays n'attend pas, parce que les défis sont énormes.
Il ne partageait plus la même vision que les autorités militaires. Dès lors, son départ était devenu inéluctable. Si donc son départ peut contribuer à changer quoi que ce soit, c'est une bonne chose pour la suite de la transition. Je souhaite vraiment que les autorités prennent en compte le coût de la vie et le problème de l'électricité. Je suis menuisier, mais je passe toutes mes journées assis car il n'y a pas de courant, alors que je ne parviens à subvenir à mes besoins qu'à partir de ce travail.
Nous devons nous donner la main pour sortir le Mali de la crise qu'il traverse. Il faut que chacun mette en avant l'intérêt du Mali.
Et l'attente à l'endroit de lui, c'est un peu le rassemblement. Parce que son successeur, qui est le docteur Cheguelko Kala Maïga, a un peu failli dans le cadre du rassemblement, que ce soit la classe politique, que ce soit les leaders d'opinion. Il a manqué d'éthique dans les rassemblements. Et aujourd'hui, c'est le rassemblement qu'on souhaite du général Abdoulaye Maïga.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le secteur informel vit en ce moment une période de crise due au déguerpissement. Plusieurs commerçants ont dû plier bagages dans les rues d'Abidjan sous la pression d'une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. Livrés à eux-mêmes et sans emploi, ces commerçants représentent pour autant un maillon important pour l'économie ivoirienne. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nemenyo.
Nous sommes à Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Ces commerçants du quartier de Siporex quittent précipitamment leur lieu de commerce avant l'arrivée des bulldozers. Ils n'étaient pas censés occuper cet espace, car beaucoup trop dangereux en raison de la présence de pylônes électriques. Benjamin Zabzoré, adjudant brigade de lutte contre le désordre urbain.
Vous-même, vous constatez par vous-même que vraiment l'opération se déroule très bien. Voilà, ça se déroule très bien. Vous avez vu qu'on a commencé depuis le feu sable jusqu'à Gabriel Gare ici. Il n'y a pas eu de résistance, ce qui veut dire que la population même adhère. Et les gens sont pour, sont d'accord parce que c'est une zone qui a été déguerpie par plusieurs fois par la mairie de Yopougon. Voilà, ils n'ont pas pu vraiment éradiquer ce coin et ils étaient obligés de solliciter le ministre gouverneur.
Il n'y a pas eu de résistance, mais les commerçants de Yopougon sont très inquiets. Ils ont eu vent des résistances qui ont eu lieu dans la commune d'Adjamé et qui ont conduit à des pertes en vie humaine. Cette fois-ci, ils plaident pour que le district autonome d'Abidjan les relocalise très rapidement. Ali Matakone, commerçante à Yopougon.
On n'a pas de place, il n'y a qu'à chercher une solution pour nous. Ça s'est cassé là, les enfants sont là, ils vont à l'école. Hein? Il y a beaucoup même, les maris ne travaillent pas. C'est nous-mêmes qui fait ici, et puis à la maison, on nourrit.
Kofi Amouirin, commerçante à Yopougon.
Non. Pardon, devant Dieu, pardon, papa. Il me met devant, pardon. Faut nous aider. Faut nous mettre quelque part, pardon. Ah, pardon, Dieu va te sauver. Pardon, pour nous sauver. Ils ont cassé ma maison, il n'y a pas encore 10 maisons. Pardon. Lui, il est débrouillé aussi pour manger là. Je ne sais pas comment il est fait, pardon, papa.
Avec cette vague de déguerpissement, les relations sont plutôt tendues entre les Ivoiriens et le district autonome d'Abidjan.
Beaucoup n'apprécient pas les méthodes de dégarpissement qui sont employées et regrettent le fait qu'il n'y ait pas de dédommagement ou de relocalisation. Soumaoro Ahmed, membre de la société civile et habitant de Yopougon.
En fait, elles ont accepté de partir parce que tout le monde sait qu'être en bas de haute tension, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais comme il n'y a pas de site actuellement pour eux, et pourtant le nouveau marché en construction, c'est pas encore fini. Donc elles seront obligées de rester au bord des bordures pour se défendre en attendant jusqu'à le 1er janvier. Donc tous les soucis actuellement, c'est quoi? Comment faire le décembre? Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul mois où tout le monde se défend normalement.
Les commerçants, dont la plupart sont dans le secteur informel, constituent un maillon important de l'économie ivoirienne. Selon les dernières estimations, 90% d'Ivoiriens travaillent dans le secteur informel, qui représente près de 40% du produit intérieur brut du pays. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, il n'existe pas de manuel de gestion des accidents médicaux, encore moins de données officielles sur l'ampleur du phénomène. Et pourtant, les plaintes liées aux accidents médicaux sont de plus en plus fréquentes et tournent parfois au drame lorsque des familles affligées usent de violence sur les professionnels de la santé. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Suite à la prescription de deux médicaments par un jeune médecin de l'hôpital privé dans le 4e arrondissement de Yaoundé, l'état de santé d'un patient septuagénaire s'est dégradé, faisant crainte de pire. Témoigne sous anonymat le fils du patient en question.
Pour 3 jours de consommation de ces deux produits-là, le malade a commencé à faire les effets secondaires de tension urinaire, somnolence extrême, fatigue extrême, perte de conscience. Après 3 jours, j'ai revu le même médecin qui a modifié sa prescription. Sauf que malheureusement, les effets secondaires ont persisté sur pratiquement, nous sommes actuellement à la 3e semaine. Le médecin, il a juste dit, bon, c'est vrai que le médicament était fort, je vais modifier la prescription.
D'autres familles ont perdu les leurs, des suites d'accidents liés à des soins médicaux. Gilbert évoque le cas de son neveu, trentenaire, inhumé la semaine dernière.
Mon neveu qui a subi 2 opérations, mais qui ont été malheureusement soldées par des erreurs médicales au niveau du dos. La conséquence, c'est que pendant le restant de ses jours, mon jeune neveu a été obligé de passer ces temps-là étant alité. Il ne pouvait plus s'asseoir. Le comble, c'est quoi? C'est que les médecins se sont simplement arrêtés à faire le constat de ce que c'est une erreur. Comme si cette erreur était une erreur comparable, c'est pas moi, à un ballon de football qu'on a percé.
La famille n'a pas porté plainte. Depuis 1 an, Dr Arlette Francine Nomo est experte médico-légale et sur les saisines sur les accidents médicaux pour l'Ordre national des médecins du Cameroun.
Du côté médical, il faut essayer de voir avec le corps médical de cette structure sanitaire par rapport à ce malade, ce qui s'est passé et essayer de voir comment on peut réparer. Surtout s'il y a des gens morts d'hommes ou alors s'il y a eu des lésions qui sont irréparables. Comment est-ce qu'il faut réparer? Est-ce qu'il faut réparer à l'amiable? Est-ce que la famille peut porter plainte pour aller en justice? On va essayer de reconstituer les faits et de tirer une conclusion. Maintenant, si on est sollicité par le patient, c'est-à-dire la famille du patient, on va essayer également de reconstituer les faits. Maintenant, s'il y a un accident médical, on va ressortir maintenant les préjudices pour qu'il y ait une réparation.
Seulement, le Cameroun ne dispose pas encore de registre national sur les accidents liés aux soins de santé. Professeur Eric Etouquin-Sémé, président de la Société savante de médecine et expectable du Cameroun.
Il n'y a pas de jour qui se passe sans que des patients se plaignent ou à la télé ou à la gendarmerie d'un problème, d'un incident survenu dans les hôpitaux. On va donc dire que c'est un phénomène de plus en plus récurrent. Nous voulons déjà rappeler ce que c'est qu'une faute médicale qui est préjudiciable, l'erreur qui entraîne une indemnisation et l'aléa pour laquelle nous ne serons pas poursuivis.
Au ministère de la Santé publique, la meilleure gestion des accidents médicaux est prise comme une action primordiale pour établir la confiance entre les professionnels de santé et les usagers. Professeur Louis-Richard Ndiok, secrétaire général du ministère de la Santé publique.
Certains praticiens affichent un comportement en déphasage avec la déontologie professionnelle.
Les actes sont guidés par des intérêts pécuniaires qui posent parfois des indications chirurgicales sans objet. Ceux-là n'ont rien à faire dans le système de santé. Avec l'accompagnement des autres professionnels, nous devons tous veiller à ce que le mauvais grain soit séparé du bon.
Les autorités camerounaises envisagent l'élaboration des manuels de gestion des accidents médicaux et la désignation des médiateurs médicaux pour trancher les cas sans toutefois recourir à la justice. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a annoncé sur son réseau social Truth que Tom Homan est son choix pour occuper le poste d'otar de la frontière. Selon Trump, Homan sera chargé de superviser toutes les expulsions d'étrangers en situation illégale vers leur pays d'origine. Véronica Filafan revient sur cette nomination et ses implications. Le récit avec Alexandrine Holognon.
Le tiers des frontières désigné par Donald Trump, Tom Homan, possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion fédérale de l'immigration. Lors de la Convention nationale républicaine de cette année, Homan a affirmé que bien que tous les présidents aient promis de sécuriser la frontière, seul Trump avait tenu cet engagement.
Il a instauré la frontière la plus sécurisée de notre histoire. C'est un fait incontestable. Les données le prouvent et tenez-vous bien, il va le faire à nouveau.
Lors de sa campagne électorale, Trump s'est engagé à mener des déportations massives d'immigrés en situation irrégulière.
Dès ma prise de fonction, je mettrai en œuvre le programme de déportation le plus ambitieux jamais vu dans l'histoire des États-Unis.
Homan affirme que les déportations sont nécessaires pour corriger ce qu'il considère comme des erreurs de la politique migratoire de Joe Biden.
Trump va mettre un terme aux frontières ouvertes de Biden et Harris. Notre priorité sera d'arrêter l'afflux de drogue et de criminalité dans vos communautés.
Homan a occupé le poste de directeur par intérim du service de l'immigration et des douanes pendant la première administration Trump, supervisant une hausse de 40% des arrestations liées aux expulsions.
Les expulsions sont globalement en baisse car la frontière est désormais mieux contrôlée qu'elle ne l'a jamais été depuis 45 ans.
L'immigration clandestine a été une question cruciale pour de nombreux électeurs lors des élections de cette année. Selon l'analyste politique Francisco Rodriguez, Homan adopte une politique de tolérance zéro à ce sujet.
Donc, si vous êtes un criminel ici et que vous avez un enfant ou une famille ici, Homan a déclaré que vous pouvez partir avec vos enfants, avec votre conjoint. Personne ne dit que la famille sera séparée.
Daisy Bayes, ancienne législatrice de l'État de Floride, estime que l'intention de Trump de nommer Homan est un avertissement pour la communauté immigrée.
Si vous n'êtes pas citoyen ou résident permanent, vous n'avez aucune garantie de rester dans ce pays. Vous pourriez figurer sur la liste des personnes susceptibles d'être expulsées.
Mon message pour les millions d'immigrés en situation irrégulière, vous feriez mieux de commencer à faire vos valises maintenant.
Donald Trump a déclaré cette semaine qu'il prévoit de déclarer une urgence nationale sur la sécurité des frontières et d'utiliser l'armée pour procéder à l'expulsion massive des migrants sans papiers après sa prise de fonction en janvier. Mercredi, la commissaire à l'aménagement du territoire du Texas, Dawn Buckingham, a déclaré dans un communiqué qu'elle offrait à Donald Trump quelques 570 hectares de terres publiques à la frontière sud des États-Unis pour aider son administration à mettre en œuvre ses plans d'expulsion. Le terrain concerné est un ranch acquis dans le comté de Starr, le long du Rio Grande, frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Munezero. À la mise en onde, Lionel Unanilagahima. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la Platex et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.